Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 19 juin de l'an 2001 à Saint-Jodard.
Nous avions vu la dernière fois comment l'un est propriété de l'être et comment il implique en lui-même cette négation du divisible, du potentiel, donc. C'est en ce sens-là que l'un ne peut passer avant l'être que d'une manière subjective, par l'aspect de la négation. Autrement dit, si la négation est première, l'un est premier. Si l'affirmation est première, on comprend comment l'être est avant l'un. C'est intéressant de voir ça, parce que on voit très nettement les deux philosophies de l'être et de l'un. Et on voit comment ces deux philosophies dépendent de cette chose très importante, la structure de notre vie intellectuelle, affirmation et négation. Toute notre vie intellectuelle est faite d'affirmation et négation. On le sait bien. Chez certains, la négation prime. Ils sont avant tout négatifs. Et tout est négatif. Chez d'autres, l'affirmation prime. La négation est seconde. Oui. Notre monde d'aujourd'hui, si on prend le climat du monde d'aujourd'hui, la négation prime. C'est net. Sartre l'a montré d'une façon très imminente. Très imminente dans l'erreur. C'est-à-dire qu'il a été très loin dans l'erreur, et je crois qu'on ne peut pas aller plus loin que Sartre. Quand il dit la néantisation permet la liberté, fait naître la liberté naît de la néantisation. Donc je nie pour être libre, sans le savoir. Mais enfin, c'est ça qui anime notre monde d'aujourd'hui. Notre monde d'aujourd'hui veut être premier. Premier, c'est-à-dire Dieu n'existe pas. Et pour que Dieu n'existe pas, il faut que la négation soit première. C'est, le démon est astucieux. Et depuis Occam, 14e siècle, la négation pousse pour être la première. Occam est le premier qui affirme que la négation est première. C'est pour ça qu'Occam représente vraiment un tournant. Et c'est un théologien. Et c'est un franciscain. Et ça a des conséquences, même par rapport à la théologie. Vous voyez, la négation, saint Thomas dit, la négation en théologie est plus certaine que l'affirmation. C'est juste. Ce que je dis, Dieu n'est pas composé. C'est absolument certain. Dieu est tout à fait simple. Certitude analogique. La négation n'est pas analogique. Elle est coupe, nette. Et on aime les choses nettes. Alors les choses nettes, si on les aime plus que la vérité, et ça arrive très facilement ça, qu'on aime les choses nettes plus que la vérité. Quand on nie, on peut avoir une certitude plus grande que dans l'affirmation. Et c'est pour ça qu'on se réfugie dans la négation. La négation est... Et le refuge des pécheurs, tu vois. parce que on est chez soi. Tandis que dans l'affirmation, on n'est jamais chez soi, on est chez l'autre. Et on aime mieux d'être chez soi que d'être chez l'autre. Ça demande beaucoup de réflexion, ça. Mais je pourrais dire que depuis presque tout le temps, j'ai cherché quelle était la note propre de la modernité. Le signe, maintenant j'en suis convaincu, le signe de la modernité, c'est de mettre la négation avant l'affirmation. Alors, si on met la négation avant l'affirmation, l'un passe avant l'être. Et l'unité est cherchée avant la finalité. On veut le consensus de tout le monde. Et c'est ce qu'il y a de plus grand. Que tout le monde soit d'accord. Qu'enfin tout le monde soit d'accord. Donc, ce qui est important, c'est la recherche de l'unité. Même si cette recherche de l'unité est difficile, mais elle finalise notre intelligence. Tandis que la négation ne finalise pas l'intelligence. La négation permet à l'intelligence, au point de vue subjectif, d'être première. Elle se libère. Elle dit. C'est extrêmement curieux. Et c'est le problème de l'un et de l'être. Et c'est pour ça que l'être, je ne peux pas dire que l'être est d'abord saisi dans la négation. Non. La négation est un être de raison. C'est mon intelligence qui, grâce à la négation, peut passer avant l'être. Par la négation, elle peut passer avant l'être. Et ça, elle aime faire ça. Parce que on se glorifie. Vous voyez, pas nécessairement affectivement, mais intellectuellement. Alors, l'affectivité suit. Et on voit cela, le même passage au point de vue affectif. Saint Thomas n'hésite pas de faire le parallélisme entre l'affirmation et le point de vue affectif. La haine passe avant l'amour. Et on aime mieux affirmer la haine. Parce que on est plus seul. On dépasse. Donc, c'est très important de bien voir que dans la négation, que dans l'affirmation de l'un, la négation est intrinsèque. Quand je dis « ceci est un », je dis en même temps « ceci n'est pas divisible ». Et c'est pour ça qu'il est un. Je vois donc que l'un est acolyte de l'être. C'est le mot d'Aristote. Acolyte de l'être, c'est-à-dire propriété de l'être. Il accompagne l'être. Mais il est toujours second. Il n'est jamais premier. Et le multiple, le divisible, est acolyte de l'être en puissance, de l'être relatif. C'est intéressant à noter aussi, c'est que, de fait, le relatif est multiple. Le relatif implique nécessairement d'être second. être en puissance n'est pas premier. Et par le fait même, il y a deux grandes modalités de l'un. L'un qui suit la substance et l'un qui suit l'acte. Et ce serait très intéressant, ça n'a pas été étudié ça, de voir le multiple, parce que toujours le multiple suit l'un et le multiple nous aide à mieux découvrir l'un. Nous avons deux types de multiplicité. La multiplicité qui vient justement de l'accident, du relatif, et la multiplicité plus cachée qui vient de l'être en puissance. Donc il y a ces deux multiplicités et ces deux caractères de l'unité. Alors regardons l'un conséquence de la substance qui est ce qui est premier dans l'ordre de l'être selon la forme, la cause formelle. Donc, l'un qui suit la substance et l'un qui est acolyte de la détermination de l'être. L'être comme être est déterminé. Et sa détermination plénière, c'est une détermination substantielle. Et la substance de ce qui est maintient une unité, une indivisibilité dans l'ordre de la forme, dans l'ordre de la détermination. Dans l'ordre de la détermination, l'un rejette le relatif. L'un c'est ce qui n'est pas relatif, ce qui doit accepter d'être premier. On voit ça dans un point de vue de procession, hein. Celui qui est en tête est premier, il n'y a personne devant lui. Il doit être déterminé. Tous les autres sont dépendants de lui. Il se trompe, tout le monde suit. Le premier a une espèce de responsabilité très spéciale. Il doit être parfaitement déterminé, même s'il voit à côté des personnes qui prennent un chemin qui n'est pas celui-là, il est déterminé, il ne bouge pas. Et très facilement, il a peur d'être premier. Il y a beaucoup de personnes qui ont très peur d'être premier. Et qui alors serait 10. Alors qu'il faudrait qu'en tant que premier, il a sa détermination. Et sa détermination, il la prend de lui-même en tant que premier. C'est l'unité qui suit la substance. Spinoza, comme philosophe, a saisi ça très fort. Pour lui, il n'y a que la substance. Ça prend tout. Parce que elle peut être absolue. Il y a un certain absolu dans la substance, c'est sûr. Puisque tout ce qui est relatif est second et multiple. Dès que vous êtes second, vous suivez. Vous n'avez donc plus la responsabilité de la conduite, de la direction. Vous suivez. Et donc, une unité très importante qui provient de la substance. Et puis, l'autre unité qui vient de l'acte, qui vient de la cause finale. Et cette unité qui vient de la cause finale est beaucoup plus profonde que l'unité qui vient de la substance. Et ce n'est pas une unité de la détermination, celle-là. C'est une unité qui vient de la fin, du terme, ce qui attire et qui met une espèce d'unité à tous ce qui est en vue de cette fin. C'est la fin qui est une, qui est participée par tous ceux qui suivent. Eh bien, je crois qu'on retrouve cela dans notre vie, dans le problème de la personne humaine. La personne humaine implique ces deux unités. Et la personne humaine, c'est là où l'unité est vécue de la manière la plus parfaite. C'est dans votre personne humaine que vous pouvez le mieux vivre là. Or, je crois que dans votre personne humaine, vous pouvez vivre d'une façon très spéciale l'unité substantielle et l'unité qui vient de la fin. Et vous allez tout de suite comprendre qu'il y a, par le fait même, deux multiplicités dans notre vie. Deux dangers de se perdre dans la multiplicité et de ne plus avoir d'unité. Parce que c'est le grand danger, cela. De perdre son identité, de perdre son unité, plus savoir. Alors, regardons l'unité personnelle qui vient de l'âme, puisque ma substance, c'est mon âme. Donc, mon unité substantielle, elle vient de mon âme. Elle vient de la connaissance de mon âme. Et qui vient de connaître mon âme comme un principe qui unifie toutes les déterminations secondaires. Les déterminations secondaires sont celles qui proviennent de nos qualités. Nous avons des déterminations secondaires multiples. pour avoir des qualités d'ordre sensible, des qualités intérieures. Nous sommes doux, nous sommes travailleurs, nous sommes intelligents, nous avons du cœur. C'est vrai, tous les accidents affectent la personne. Les 10 prédicaments sont les 10 manières de s'éparpiller. Et dans les prédicaments qualité, il y a des quantités de qualité dans la personne humaine. L'intelligence qui peut s'épanouir de façon tellement différente. L'amour. Elle aussi peut s'épanouir de façon tellement différente. Il y a l'être le plus complexe, c'est l'homme. Vous êtes plus complexe que n'importe quel animal. C'est-à-dire, vous avez une multiplicité de déterminations qui risque toujours de vous arrêter et de vous empêcher d'être un profondément. Et ceci est d'autant plus vrai qu'il y a la croissance. La croissance, elle met le devenir avant l'être. On est préoccupé de croître. De grandir. Et parce qu'on est préoccupé de grandir, les qualités passent devant. On a un souci de développer son intelligence, par exemple, ce qui est très légitime et ce qui est très bien. Mon intelligence me donne des déterminations très net dans ma vie. Et je risque de ne plus voir que ces déterminations. Quelqu'un de beaucoup plus affectif verra au contraire ses qualités du côté de l'amour. Avant tout. Et ses qualités de l'amour seront ces déterminations les principales. L'amitié. J'ai des capacités artistiques. J'ai des capacités dans toute l'acquisition des vertus. On se préoccupe de l'acquisition de telle vertu. Et tout s'oriente vers ça. Et c'est vrai que l'être humain a un assemblage de déterminations qui sont uniques. Et il y a une détermination fondamentale qui vient de l'âme. Ce n'est qu'une âme qu'il faut sauver. Hein. Ce n'est qu'une âme. Toutes ces déterminations proviennent de l'âme. Et chacune de ces déterminations me fait comprendre ce qu'est mon âme. Je connais mon âme par toutes ces déterminations. Si je suis intelligent, je vois que la source de mon intelligence, c'est mon âme. C'est mon intelligence, mais mon intelligence provient de mon âme. Mon intelligence est relative à mon âme. Donc, l'unité de la personne humaine ne se fait pas du côté mathématique, du côté de la science, du côté de l'intelligence. On a une certaine unité par intelligence, mais on a été relative. Mon intelligence est relative à mon âme. Donc l'unité fondamentale, la profondeur de mon unité, c'est mon âme. Et on verra ça tout de suite chez quelqu'un qui n'aura d'unité que par son intelligence. Ce sera très beau. Je dis bien, ce sera très beau, mais ce sera très dangereux. Parce qu'il va sacrifier des quantités de valeur pour son intelligence. Il a mis toute son unité dans le développement de son intelligence. Je n'ai pas le droit de mettre toute ma vie dans le développement de mon intelligence. Mon intelligence, c'est une qualité, mais ce n'est pas tout. Il y a un déséquilibre qui se produit alors entre l'unité acquise par l'intelligence et l'unité beaucoup plus profonde de l'âme. Au fond, on aura la paix que quand l'unité de ma vie, l'unité de mon être atteint mon âme, ma substance. Et vous voyez, ceux qui nient l'existence de l'âme, parce que scientifiquement, on ne peut pas atteindre l'âme. Il y en a de plus en plus, hein, puisque ça atteint même des philosophes comme Merleau-Ponty. L'unité se fait alors au niveau de la conscience. Pour Merleau-Ponty, c'est la conscience. Et tout ce qui n'est pas conscient, l'inconscient, est rejeté. Et c'est ça qui fait des terribles refoulements. Parce que l'inconscient fait partie de l'unité de mon âme. Mon âme à des quantités de détermination en puissance. Je peux grandir dans beaucoup de domaines. Alors il y a la rivalité. Et je dois opter. Et on fait passer très facilement ce dont on a conscience avant. Alors la conscience n'est pas l'âme. Donc, je cherche mon unité là où elle n'est pas. Et je ne l'aurai jamais. Je suis un phénoménologue. L'unité, c'est le vécu. C'est pas l'âme. L'âme principe, l'âme substance. Non. L'unité, le vécu. Le vécu, dans ce qu'il a de plus profond, c'est le vécu de la conscience. La conscience est du vécu. Alors le vécu peut peut-être aller un peu plus loin, que la conscience se reconnaît que d'une certaine manière, il y a des choses qui ne sont vécues partiellement et qui demandent d'être vécues plus profondément. L'autre unité, c'est l'unité qui vient de ma fin. Elle est encore beaucoup plus intéressante. L'unité de ma substance, elle est très bien, mais là encore, je ne peux pas m'arrêter à cette unité de ma substance, parce qu'elle est statique. et je ramène tout alors à ce que je suis maintenant. Et ce que je suis maintenant va tout de suite changer. Mon unité de mon âme, je la saisis dans l'instant présent. Je suis. Mais bon, je suis implique tout de suite le lendemain, l'instant après. Et donc, l'unité de l'âme au niveau substance ne suffit pas pour l'unité de ma vie. J'ai une unité qui se fait tout le temps. Mon unité actuelle n'est pas celle de l'année dernière, n'est pas celle d'il y a quelques années. Le jour où on ramène toute l'unité à mon âme, au fond, j'ai une unité que je risque de perdre. J'ai une unité statique qui était très bien au moment où je pouvais affirmer cela et qui tout de suite est dépassée. Alors je vois que l'unité de l'acte, de la finalité, est une unité qui perpétuellement se réalise. Elle se fait. Parce que ma fin, je l'atteins toujours plus profondément. Je l'atteins aujourd'hui plus profondément qu'hier. Et plus profondément qu'il y a un an. Je vois donc que mon unité de mon acte est une unité vers laquelle je tends et que je possède momentanément les délais qu'il y a. Et l'unité vers laquelle je tends, c'est ce qui m'attire. Mais je ne possède pas. C'est la vérité pour mon intelligence. Cette vérité que je cherche, cette vérité qui m'attire, c'est le bien d'une personne et de Dieu qui m'attire, et de plus en plus, je vois ce qu'est cette fin. Je précise que c'est vraiment Dieu qui m'attire et qui prend tout, même au plan philosophique, purement philosophique. Il y a ce besoin d'unité qui se fait toujours plus parfaitement et qui est toujours imparfaitement vécu. C'est l'opprobre de cette unité qui se fait par la fin. C'est qu'elle me déloge tout le temps. Et elle me déloge tout le temps. De sorte que, si je ne fais pas grande attention, elle me mettra dans une inquiétude. Parce que elle me déloge. Je suis toujours plus près de ma fin, mais je n'y suis pas. quand j'y serai, alors je ne dérangerai plus personne. Je n'aurai plus besoin de personne. Je serai enfin arrivé au terme. Je verrai Dieu autant que je peux le voir, au point philosophique, au point de vue humain. Et si je suis chrétien, je sais que c'est la vision béatifique. Et la vision béatifique est solitaire. Une solitude substantielle. Je verrai Dieu et je serai possédé par celui qui m'attire, celui qui est plus que moi et qui me permet d'être tout entier tourné vers lui dans la solitude. C'est ce qu'il y a de si particulier dans l'unité qui provient de la finalité. C'est cette unité qui me maintient dans la pauvreté, puisque je ne possède pas la fin, je suis possédé par ma fin. Plus la fin est forte, plus je suis dans un état disponible à son égard. Plus je la laisse tout envahir en moi. Et par le fait même, mon absolu est dans mon relatif. Être ad, tourné vers, et tout entier tourné vers. Je vois que mon unité personnelle est l'unité d'un mendiant. Ma fin, je ne la possède pas, mais je suis possédé par elle. C'est elle qui m'attire, c'est elle qui me prend de plus en plus. Donc, c'est dans mon ordre vers la fin que je suis le plus finalisé. Plus cet ordre vers la fin me possède, pour me mettre tout entier ordonné à cette fin, plus je suis finalisé, plus je suis un. Vous voyez, cette chose extrêmement curieuse, c'est que mon unité substantielle qui vient de mon âme, cette unité statique, elle est indivisible. Mon âme ne change pas. Et mon âme est indivisible. Et elle me donne cette saveur, ce goût de quelque chose d'indivisible. Mon unité personnelle de finalité est une unité beaucoup plus riche. Mais une unité qui est tout le temps dans l'attraction. Elle est dans l'attraction. Et donc, elle n'est jamais possédée. Si je la possède, je remets du statique là où la perfection est d'être sortie de soi. Je suis un en étant sorti de moi vers ma fin. Et ceci est surtout vrai du côté de l'amour, mais même du côté de l'intelligence. De l'intelligence qui juge. Or, la contemplation est toujours dans le jugement. Elle n'est pas dans l'appréhension. Il n'y a pas de contemplation dans l'appréhension. C'est une fausse contemplation, alors. C'est un idéal. Ce n'est pas une contemplation. La vraie contemplation est toujours dans le jugement. Donc elle est toujours au-delà de moi. je suis possédé par Dieu beaucoup plus que possédé Dieu. Parce que je sais que je ne peux pas comprendre Dieu. Je le connais, je peux le voir, je peux l'aimer, mais je ne peux pas être mesure de Dieu. Si j'étais mesure de Dieu, je pourrais m'arrêter en disant ce que je possède de Dieu, c'est mon absolu. C'est-à-dire que je suis obligé de dire ce que je possède de Dieu demande que je sois encore plus possédé par Dieu. Et donc, je ne le possède jamais. Je suis toujours dans un état de pauvreté pour avancer plus loin. C'est une unité très spéciale, cette unité qui vient de la fin. C'est une unité qui me met dans ce dynamisme, cette extase, cette sortie de moi vers la fin, être extatique. Et c'est dans cette extase d'amour que je saisis ce que je puis saisir. Je contemple ce que je peux contempler. Et je contemplerai encore plus si j'aimais plus. Mon amour, ma tension vers la fin est mesure de ma connaissance, est mesure de ma contemplation. Parce que je contemple une réalité qui est supérieure à moi. Quand vous contemplez une réalité qui est inférieure à vous, le petit chien, vous savez que cette contemplation est limitée. Alors, ce n'est pas votre connaissance du petit chien qui vous satisfait. L'intelligence est faite pour aller au-delà de tout ce qui est limité, pour aller vers ce qui est premier. Et ce qui est premier est au-dessus de moi, et donc il faut l'aimer pour le connaître. Et c'est dans l'amour que ma connaissance devient la plus parfaite, une connaissance amoureuse. Et donc, l'unité de la personne humaine, vous voyez, est une unité qui ne peut jamais s'arrêter. Puisque ma fin est Dieu, même au plan philosophique. Et au plan surnaturel encore plus. Parce que je connais mieux Dieu infiniment bon. Je sais mieux que l'infinité de la bonté de Dieu m'attire. Et m'attire de façon que je ne pourrai jamais, moi, mettre une limite. Et c'est cela qui caractérise d'une façon si spéciale cette unité de la personne humaine. Vous voyez ? C'est l'inverse d'une unité de quelqu'un qui dit « Maintenant, ça y est, je m'arrête. » Si on s'arrête, on est changé en statut de sel. On n'a pas le droit de s'arrêter, métaphysiquement, parce qu'on sait que ce qui me finalise, c'est Dieu. Si je sais que ce qui me finalise, c'est Dieu, je sais que je puis toujours le connaître mieux en l'aimant plus. que je ne peux pas mettre moi-même un terme à cela. Ce terme ne peut venir que de la fin elle-même. Et je ne l'accepte que de la fin elle-même. Parce que seule la fin peut mesurer ma fin qui est Dieu, ne peut mesurer mon intelligence. Vous voyez, ce problème de l'unité vu du côté de la personne est particulièrement important pour bien distinguer l'unité que je possède, mon âme, l'unité qui m'attire, Dieu. Il y a donc en moi deux principes d'unité. Mon âme créée par Dieu, mais c'est mon âme. Et Dieu qui m'attire, que j'aime.